Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et troisième temps, juste milieu d'une semaine consacrée par les nouveaux chemins de la connaissance à l'œuvre de François-Marie Arouet, c'est-à-dire Voltaire. Grand roi, j'aime fort les héros lorsque leur esprit s'abandonne aux doux passe-temps, aux bons mots, car alors ils sont en repos et ne font de tort à personne. J'aime César, ce bel esprit, César dont la main fortunée a tous les lauriers destinés à grandir Rome et lui prescrit un autre ciel, une autre année. J'aime César entre les bras de la maîtresse qui lui cède, je ris et ne me fâche pas de le voir jeune et plein d'appât, dessus et dessous Nicomède. Je l'admire plus que Caton, car il est tendre et magnanime, éloquent comme Cicéron et tantôt gai, tantôt sublime, comme un roi dont je tais le nom. Mais je perds un peu de l'estime quand il passe le Rubicon, et je pleure quand ce grand homme, bon poète et bon orateur, ayant tant combattu pour Rome, combat Rome pour son malheur. Bonjour Raymond Trousson.
Bonjour.
Bonjour, bonjour pour la troisième fois. Bienvenue de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance. Toute cette semaine, on la passe en votre compagnie et autour de Voltaire, de l'œuvre de Voltaire, de l'œuvre et de la vie de Voltaire, dont vous êtes le biographe, puisque votre biographie est parue chez Talendier en 2008. Et c'est un livre que nous recommandons à tous nos auditeurs. On vient d'entendre un poème pour Frédéric II. Roi de Prusse, de la part de Voltaire, ça date, je crois, du 15 juin 1743. C'est un poème qui en dit long, d'une certaine manière, sur le rapport, le lien qui unit et qui désunit, d'ailleurs, Voltaire et Frédéric II. On en parlait hier, Raymond Trousson. Avant de parler aujourd'hui du dictionnaire philosophique de Voltaire, il faut revenir un instant sur cette relation à Frédéric II.
Justement, on en était resté à Maupertuis, si je me souviens bien. Et c'est évidemment l'affaire Maupertuis qui va perturber quelque peu les rapports entre Voltaire et Frédéric II. Maupertuis était donc un savant de grande renommée, devenu président de l'Académie de Berlin. C'est un homme au caractère assez difficile, assez ombrageux, assez vaniteux aussi, et qui n'aime pas être dans l'ombre. Or, lorsque Voltaire arrive à Berlin, il trouve autour du roi une équipe de gens infiniment respectables, comme Maupertuis, le marquis d'Argens, le mathématicien Euler, Algarotti, etc. Mais en fait, la vedette, c'est Voltaire. Et Maupertuis le supporte assez difficilement. Les rapports sont donc d'emblée relativement tendus. Et Voltaire écrit d'ailleurs à Madame Denis, « Bon, quant à Maupertuis, ben, je le supporte. » C'est donc pas très chaud.
C'est dire qu'il ne le supporte pas.
Très exactement. Les choses vont bientôt se compliquer, effet boule de neige. D'abord parce que Maupertuis, dans certaines de ses œuvres et dans ses lettres, avait émis, mais disons à titre spéculatif, une série d'hypothèses qui pouvaient paraître assez farfelues. Creuser un trou jusqu'au centre de la Terre, disséquer des géants patagons pour étudier l'immortalité de l'âme,
bâtir une ville. Disséquer des géants patagons.
Patagons, et oui, il devait être patagon. Les patagons passaient à l'époque pour être des géants. Le résultat de cette histoire, c'est que Voltaire rend compte, dans deux articles assez ironiquement, bien sûr, de ce qu'il tient pour des élucubrations, et que Maupertuis avançait simplement en tant que spéculation philosophique et non en tant que vérité scientifique, bien entendu. Et puis vient se greffer là-dessus une autre histoire qui, elle, va tourner beaucoup plus mal. C'est l'intervention d'un autre savant nommé Samuel Koenig, que Voltaire et Maupertuis connaissaient. Il avait même été un temps professeur de Madame du Châtelet à l'époque où elle s'occupait de sciences et de physique. Maupertuis avait avancé un principe auquel il tenait beaucoup, qu'il appelait le principe de moindre action, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, en tout, la nature agit toujours avec le minimum d'efforts possible.
C'est l'anti-Leibniz.
Exactement. Or justement, Samuel Koenig, lui, fait valoir que cette idée-là, eh bien, elle est déjà dans Leibniz. Il prépare d'ailleurs un mémoire sur la question, vient à Berlin pour en discuter avec Maupertuis, qui ne l'écoute pas. Il dit « Oui, mais je peux publier ?»« Bon, oui, du Maupertuis, publié. » Il publie, et là, Maupertuis le prend très mal. D'abord parce que cette révélation, pseudo-révélation, met en cause son originalité et sa priorité, et ensuite parce que ça le fait passer pour un plagiaire. Or, Koenig citait une lettre de Leibniz. Maupertuis exige évidemment qu'on lui présente la lettre de Leibniz qui peut prouver les dires de Koenig, lequel se trouve alors bien embarrassé parce qu'il n'a pas du tout la lettre originale. Sa sincérité n'est pas en cause, mais enfin, il n'a pas la lettre originale. Ce qui fait que Maupertuis se fâche, tout rouge, et somme Koenig de fournir la lettre dans un délai très bref, ce que Koenig ne peut pas faire, et l'Académie, sous la pression de Maupertuis, qui est tout-puissant et despotique, exclut Koenig de l'Académie de Berlin, dont il était membre associé.
Que fait Voltaire à cet instant ?
Voltaire estime, lui, qu'on se trouve devant une profonde injustice. Il déplore l'arbitraire de Maupertuis. Et ça le choque. Donc il intervient. Il va se lancer alors dans une œuvre qui fera à l'époque énormément de bruit, et qu'il intitule, du moins l'origine, la diatribe du docteur Akakia. Et cette diatribe se composait de plusieurs textes d'ailleurs, où Voltaire s'en prenait au despotisme et à l'arbitraire du président de l'Académie, qui avait d'ailleurs même la haute main sur les pensions des académiciens, ce qui explique leur soumission, mais aussi évidemment sur toutes les élucubrations pseudo-scientifiques de Maupertuis, et bien sûr le ridiculise.
Pointant d'ailleurs par là même le lien qu'il y a entre l'élucubration et le dogmatisme d'un directeur d'académie.
Exactement. Il invente là un nom qui fera fortune, évidemment, Akakia, c'est-à-dire sans malice en grec, qu'il n'invente pas d'ailleurs. Il s'agissait d'un médecin du temps de François Ier qui s'appelait en effet sans malice et qui, trouvant ce nom un peu ridicule, l'avait grécisé à la manière des savants du temps. Il s'était appelé Akakia.
Pour démentir justement ce que disait son patronyme lui-même.
Très précisément. Le résultat de l'affaire, c'est que le roi prend très mal cette histoire. Il le prend très mal parce que ce qui est mis en cause, c'est le prestige du président de son académie, et par là même, son académie à lui, Frédéric. Il le prend si mal d'ailleurs que le 24 décembre 1752, il fait brûler sur la place publique la fameuse diatribe du docteur Akakia. Cela envenime évidemment considérablement les relations entre le roi et Voltaire. Le roi qui va même jusqu'à prendre position dans la querelle en écrivant lui-même une lettre publiée où il s'en prend à Voltaire et défend son président. Les relations sont donc à cette époque extrêmement tendues. Voltaire est manifestement tombé en disgrâce. Ça ne va plus. Les deux hommes s'opposent. Voltaire, en déployant cet esprit d'ironie, de liberté, d'insoumission qui le caractérise, et Frédéric, lui, irrité de voir son pouvoir mis en cause et la réputation de son académie. C'est ce qui va finalement amener la rupture. Voltaire demande à pouvoir quitter Berlin, prétexte aller aux eaux de Plombières pour se soigner. Ça traîne, puis filme. Frédéric finit par accepter. Et finalement, Voltaire obtient l'autorisation de s'en aller. Il circule alors à travers différentes villes, puis le 31 mai, il arrive à Francfort. Et là, à Francfort, il se trouve devant une situation tout à fait imprévue. Il avait offert à Frédéric, avant de partir, de lui rendre sa croix de chambellan, son ordre du mérite, et aussi un volume d'œuvres de Frédéric II, qui était lui-même écrivain, ce que le roi avait d'ailleurs refusé. Non, gardez-les, etc. Et puis voilà que soudain, le 1er juin, au moment où Voltaire et son secrétaire s'apprêtent à reprendre leur route, que le résident local de Frédéric II,
Freitag,
le baron Freitag, se présente chez lui et lui signifie qu'au fond, il ne peut pas partir avant qu'il ait restitué les objets en question. Voltaire ne fait pas d'histoire. Il dit, bon d'accord, seulement l'ennui, c'est qu'ils sont restés dans une malle, laquelle est restée bloquée encore à Leipzig. Il faut donc attendre qu'elle arrive. Bien, il sera donc, disons, non pas séquestré, mais enfin arrêté à Leipzig, jusqu'à ce que la malle arrive. Les choses pourraient évidemment s'arrêter là. Seulement, ils vont très vite s'envenimer à cause de certaines erreurs ou de certaines mauvaises volontés ou d'abus de pouvoir de ce résident Freitag et de celui qui lui sert de secrétaire, qui est un conseiller Aulik, qui lui s'appelle Schmidt. Ce qui fait que, même lorsque la malle arrive et que les œuvres et les objets réclamés par Frédéric sont livrés, on refuse de le laisser partir. La malle est arrivée le 17 juin.
Sans compter que certains effets de Voltaire avaient été délibérément égarés dans le trajet.
Bien sûr, il l'accusera d'ailleurs en disant qu'on lui a volé de l'argent, etc. Cette malle était arrivée le 17, rien à faire. Freitag et Schmidt s'opposent à son départ. Voltaire prend feu cette fois-ci, bien entendu. D'autant plus que sa nièce, Madame Denis, qui l'attendait à Strasbourg, est venue le rejoindre le 9 juin et qu'elle se trouve dans la même situation d'arrêt que son oncle et le secrétaire, alors qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire, bien sûr. Le 20, jugeant cette situation insupportable, Voltaire tente de s'évader. Et en compagnie de son secrétaire, bon, il arrête une voiture, prend le nécessaire avec lui et prend la clé des champs. Il est rejoint à la sortie de la ville par une escouade chargée de l'arrêter et qui le ramène évidemment comme un prisonnier de droit commun. Il n'est plus à l'auberge du Lion d'Or, qui était une auberge bien sûr fort convenable. On le met, dit-il, dans une infâme gargote qui s'appelle à la Corne de Bouc, où il est séquestré avec des soldats devant sa porte. Pire encore, Madame Denis, sa nièce, qui elle était restée à l'autre auberge, est conduite de la même façon à la Corne de Bouc, séquestrée elle aussi, avec un garde dans sa chambre, le privant ainsi de toute intimité, etc. Bien entendu, Voltaire proteste. Il proteste auprès de Schmitt et de Freytag, sans résultat, parce que les courriers se croisent. Pourtant, assez tôt, Frédéric a
une
expliqué...
Une question, justement. Frédéric, souhaite-t-il que Voltaire soit traité de cette façon? Non. Ou est-ce juste l'effet du zèle de Schmitt et Freytag?
C'est l'effet du zèle de Schmitt et de Freytag, et aussi d'ordre, disons, mal interprété. Il était question des œuvres du roi de Prusse, les œuvres de poésie. Ben, finalement, on ne savait pas très bien si c'était un livre ou un manuscrit, etc. Freytag n'est pas très sûr, il ne veut pas risquer d'indisposer Frédéric. Tant et si bien que, malgré les ordres que Frédéric donne lorsqu'il est avisé par Voltaire, par Madame Denis, de cette situation, il dit à Freytag, mais non, ce que je voulais, c'était récupérer ce qui m'appartient, et puis après ça, Voltaire pouvait continuer sa route. Puis, sur toute une série de petits événements qu'il serait trop long de résumer, finalement, Voltaire et Madame Denis restent prisonniers. En dépit de toutes leurs protestations, des lettres qu'ils écrivent tous azimuts pour essayer d'en sortir. Et ce n'est finalement que le 7 juillet que Voltaire, enfin, obtient l'autorisation de s'en aller et qu'il quitte Francfort. C'est un épisode que Voltaire n'oubliera jamais. Lui, l'écrivain le plus célèbre d'Europe, traité de cette manière, humilié. Sa nièce, une femme traitée de la même manière, il ne le pardonnera jamais. À Frédéric, un Frédéric dont il passera des années à espérer un mot d'excuse, que Frédéric refusera toujours, et même il lui dira d'ailleurs une fois, bon écoutez, en ce qui concerne votre nièce, cessez de m'importuner, j'ai pas d'excuse à faire. C'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais parce qu'il se rend compte, une fois de plus, qu'un peu, si vous voulez, comme dans l'affaire du chevalier de Rohan, malgré sa célébrité, il n'est jamais qu'un histrion, un paladin, un amuseur. Et que le pouvoir des rois et leur arbitraire demeurent entiers. Il y a là quelque chose qui le blesse profondément et qui ne pardonnera évidemment jamais à Frédéric, même si par la suite il reprendra des contacts avec le roi jusqu'à la fin de sa vie. La dernière lettre du roi à Frédéric date du 18 avril 1778.
Vous avez dit la dernière lettre du roi à Frédéric. Oui.
Ah pardon, la dernière lettre du roi à Voltaire.
Est-ce un lapsus, hein, peut-être?
Ben, pas vraiment, parce qu'au fond c'est le roi Voltaire.
Et ben voilà, justement. Ouais.
Donc c'est pas tout à fait un lapsus. Date du 18 avril 1778, un peu plus d'un mois avant la mort de Voltaire, le 30 mai.
Je suis absorbé dans un conte que je me rends à moi-même par ordre alphabétique de tout ce que je dois penser sur ce monde-ci et sur l'autre, le tout pour mon usage et peut-être après ma mort pour l'usage des honnêtes gens, écrivait Voltaire le 18 février 1760 dans une lettre à Madame du Défunt. S'instruire en s'amusant, c'est le mot d'ordre du petit dictionnaire philosophique de Voltaire, le dictionnaire portatif, et qui gouverne la rédaction de tous ses articles. Le génie de la synthèse, Voltaire, l'homme qui souhaitait malheur aux grandes dissertations, donne avec ce petit ouvrage ses lettres de noblesse à l'entreprise magnifique de vulgarisation de la pensée. Raymond Trousson, on sait que Voltaire n'est pas un grand philosophe. On ne peut pas dire quel est le système de Voltaire, s'il est un système voltairien. Mais en revanche, et vous me le disiez tout à l'heure, à la fin de... tout à l'heure, c'est-à-dire hier pour l'auditeur, à la fin de la deuxième émission, c'est un vulgarisateur de génie, comme en témoigne ce dictionnaire philosophique.
Oui, en effet, de toute manière, c'est sa grande qualité. Mais il faut entendre, évidemment, philosophe au sens du XVIIIe siècle. C'est-à-dire au sens de sage, d'homme qui n'obéit qu'à la raison, qui refuse les préjugés et les superstitions, et pas nécessairement, comme on pourrait le faire, dans le sens philosophe au sens strict fabricateur d'un système. Il n'est ni Spinoza, ni Leibniz, bien entendu. C'est un homme qui philosophe au nom du bon sens et de la raison. Ce dictionnaire philosophique, qui est à avoir un succès considérable, et qui reste d'ailleurs même encore aujourd'hui l'une des œuvres les plus lues de Voltaire, remonte en réalité assez loin. Ça remonte à l'époque des soupers de Potsdam avec le roi de Prusse et ses convives. Et dans ces soupers, fort libres bien entendu, s'échangeaient pas mal d'idées et de projets. Et il semblerait qu'un jour, si l'on en croit le secrétaire de Voltaire très précisément le 28 septembre 1752, on aurait évoqué à la table du roi l'idée d'un ouvrage collectif, dans l'ordre alphabétique, qui aurait été à l'origine de ce dictionnaire. Comme toujours, Voltaire emballé, dès le lendemain, commence à écrire des articles, les autres ne les écriront pas, et finalement, l'œuvre viendra du seul Voltaire. Cette idée va sommeiller pendant des années, parce qu'il est pris par d'autres priorités. Et puis, comme vous le voyez dans la lettre que vous venez de lire, du côté des années 1760, il y revient. Et finalement, la première édition du dictionnaire philosophique, évidemment condamnée, paraît en 1764. Il compte alors 73 articles. La dernière édition, enfin du vivant de Voltaire bien entendu, est de 1769 et l'aurait été alors assez considérablement augmentée. On arrive à 118 articles. Pourquoi ce dictionnaire philosophique ? Ben, nous en parlions hier d'ailleurs. Voltaire n'est pas très chaud pour l'entreprise encyclopédique, parce qu'il la juge, en somme, peu efficace. C'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop cher. Au contraire, un dictionnaire maniable, quelque chose qu'on peut garder dans sa poche et lire en voyage, par exemple, voilà l'idéal. En outre, il admire l'ordre alphabétique, parce que cet ordre alphabétique qui semble dépourvu, et qu'il est en effet de toute rationalité, est un système qui permet précisément d'éviter le système, le systématique du discours ou du traité, et qui permet de sauter d'un sujet à l'autre.
C'est ça ce qui est génial, c'est que l'arbitraire de l'alphabet dispense de l'arbitraire beaucoup plus redoutable d'un système, c'est-à-dire d'un dogme.
Et surtout, ça permet, comme le précise d'ailleurs Voltaire, ça permet au lecteur de faire la moitié du travail. Il dit « les bons livres sont les livres dont le lecteur fait la moitié ». Or, tous ces textes sont des textes très raisonnablement courts. Il y en a qui font une demi-page, les autres font plusieurs pages, mais enfin, rien qu'on ne puisse lire d'un seul trait et qui ne nourrisse la réflexion. C'est évidemment ce qui va faire son succès. D'autre part, il y a aussi dans l'ordre alphabétique cet avantage que ça favorise une remarquable diversité. Il ne lasse pas le lecteur. Il y a un article sur les anciens juifs, et puis un article sur la politique, et puis un article sur Jésus-Christ, et puis un article sur la torture, un autre sur la tolérance. Ça permet, au fond, une espèce de discussion par l'écrit avec le lecteur. Voltaire dit ceci, le lecteur, quant à lui, pense cela, réfléchit à ce qui vient d'être dit, passe à un autre sujet. Bref, c'est un ouvrage, comme Voltaire sait les faire, il est accrocheur. Il marche, il parle à l'intelligence du lecteur et, en somme, le contraint à réfléchir, en laissant des questions en suspens, en ouvrant des hypothèses, en avançant des paradoxes, en variant aussi extraordinairement les tons, puisqu'il y a des articles qui prennent presque la forme d'un petit traité, mais il y a aussi des dialogues, il y a même des catéchismes. Il y a le catéchisme du chinois, le catéchisme du curé, le catéchisme du japonais, qui sont sous forme de catéchisme, c'est-à-dire de questions et de réponses. La variété même du style rend le livre attrayant et évite la fatigue au lecteur. C'est donc un livre qui porte. D'où le premier titre, Dictionnaire philosophique portatif.
En variant le ton, par exemple, tenez, fanatisme, toutes les horreurs de 15 siècles renouvelées plusieurs fois dans un seul, des peuples sans défense égorgés au pied des autels, des rois poignardés ou empoisonnés, un vaste État réduit à sa moitié par ses propres citoyens, la nation la plus belliqueuse et la plus pacifique divisée avec elle-même, le glaive tiré entre le fils et le père, des usurpateurs, des tyrans, des bourreaux, des parricides et des sacrilèges, violant toutes les conventions divines et humaines par esprit de religion, voilà l'histoire du fanatisme et de ses exploits. Femme. En général, elle est bien moins forte que l'homme, moins grande, moins capable de longs travaux. Son sang est aqueux, sa chair moins compacte, ses cheveux plus longs, ses membres plus arrondis, les bras moins musculeux, la bouche plus petite, les fesses plus relevées, les hanches plus écartées, le ventre plus large. Ces caractères distinguent les femmes dans toute la terre, chez toutes les espèces, depuis la Laponie jusqu'à la côte de Guinée, en Amérique comme à la Chine. Enthousiasme, Ce mot grec signifie émotion d'entrailles, agitation intérieure. Les Grecs inventèrent-ils ce mot pour exprimer les secousses qu'on éprouve dans les nerfs, la dilatation et le resserrement des intestins, les violentes contractions du cœur, le cours précipité de ces esprits de feu qui montent des entrailles au cerveau quand on est vivement affecté? Ou bien donna-t-on d'abord le nom d'enthousiasme, de trouble des entrailles, aux contorsions de cette pitié qui, sur le trépied de Delphes, recevait l'esprit d'Apollon par un endroit qui ne semble fait que pour recevoir les corps? C'est dire hein, la profusion extraordinaire de styles et de sujets qui hantent le dictionnaire philosophique.
C'est ce qui en fait le succès, bien entendu, le charme et l'attrait. Cette diversité est prodigieuse non seulement pour les sujets, parce qu'on y trouve âme, amitié, superstition, anthropophage, Ézéchiel, satire, péché originel,
apostat, torture. Alexandrie, Bacon, oui, monde voilà. Enchanté, bibliothèque.
Tout ça éclate, semble-t-il, sans aucune cohérence ni cohésion. Cette cohérence et cette cohésion se retrouvant, bien entendu, dans l'ensemble de ce qu'on appellera, entre guillemets, le système de pensée voltairien, c'est-à-dire l'essentiel de ses préoccupations morales, politiques ou philosophiques. Mais c'est un système souple, un système désarticulé.
Mais ce système souple et désarticulé, c'est sa vertu et c'est son défaut. Est-il souple et désarticulé tout simplement parce que Voltaire a l'esprit trop vif? Disons que l'alacrité de Voltaire lui interdit d'adhérer une fois pour toutes à un système ou à un dogme? Ou est-il souple et désarticulé parce que le système de Voltaire ne se repère que de façon négative par la somme de ce qu'il l'indigne et de ce contre quoi il prend position?
C'est en effet assez souvent le cas, effectivement. Voltaire étant un combattant et un polémiste dans l'âme, c'est un homme qui réagit, et qui réagit avec une promptitude extraordinaire et une précision, une lucidité qui force évidemment l'admiration. Voltaire est un homme qui peut certes écrire tout seul, par lui-même, si j'ose dire, comme lorsqu'il fait par exemple du côté des années 1736, ce qu'il intitule lui-même d'ailleurs un traité de métaphysique, qu'il communique d'ailleurs à Frédéric II. Mais c'est aussi un homme qui réagit à l'immédiat, à l'actuel, à la provocation, ce qu'il prend pour une provocation éventuellement. Il travaille donc de cette manière qui suppose au fond, eh bien l'enthousiasme dont il fait certaines critiques dans l'article que vous venez de lire, mais qui est aussi chez lui quelque chose comme un enthousiasme contrôlé. Il a besoin de cela, c'est un tempérament nerveux, sanguin, il réagit au quart de tour et il a surtout cet extraordinaire don de la clarté dans l'exposition et l'aptitude à résumer des problèmes souvent complexes d'ailleurs en une formule. On lui a bien sûr reproché de simplifier. Faguet disait...
Mais parfois même de commettre des contresens.
D'ailleurs. Bien sûr, mais il en commet d'ailleurs, il fait quelques erreurs, même si son érudition demeure absolument éblouissante. Mais Faguet, à la fin du siècle, du 19e siècle, avait donné à Voltaire une formule assez insultante. C'est un chaos d'idées claires. Chaos d'idées claires, claires indiscutablement, mais chaotiques parce qu'elles ne sont pas organisées en système. Cette facilité, cette rapidité, cette productivité inlassable jusqu'au dernier jour explique aussi certaines critiques qui lui viennent pas de n'importe où. C'est par exemple dans certains moments de colère ce que dira Diderot. qu'il admire pourtant, mais enfin il dira Voltaire, le second dans tous les genres.
Le second dans tous les genres.
C'est-à-dire un homme qui, emporté par son extraordinaire facilité, ne va pas jusqu'à la perfection. Il va trop vite, il fait trop. Et on lui reproche ça très tôt. Il veut être à la fois poète épique, dramaturge, auteur de comédie, philosophe, historien, homme de science. Il écrit un essai sur la nature et la propagation du feu. Il publie les éléments de philosophie Newton qu'il introduit en France. C'est l'homme orchestre. Et certains lui reprochent évidemment d'aller trop vite ou trop simplement.
Il y a un jésuite, je crois, dans L'Ingénu qui s'appelle le Père tout à tous.
Oui.
Est-ce que le Père tout à tous, en un sens, ça n'est pas Voltaire ou le Père touche à tout ?
C'est un touche à tout de génie qui illumine tout ce qu'il touche. Parce qu'enfin, et par exemple, des journalistes comme Fréron se moqueront de lui à propos des éléments de la philosophie de Newton en disant Monsieur de Voltaire, qui est presque à la cinquantaine, là, ça fait longtemps qu'il est grand poète. Et puis brusquement, comme ça, à la cinquantaine, il se met à aborder des sujets qui demandent des années d'études. Que penserait-on d'un scientifique du même âge qui se mettrait à la poésie ? On lui reproche une certaine superficialité. Cette superficialité voltairienne n'est en somme, me semble-t-il, qu'apparence. C'est cette infinie clarté qu'il jette sur toutes les choses qui peut donner l'impression parfois qu'il les survole. En réalité, ce sont des choses qui sont presque toujours, il y a des exceptions bien sûr, mais presque toujours profondément assimilées. Et c'est parce qu'il les comprend avec une intelligence sans pareille qu'il est capable d'en restituer le sens en très peu de pages, en très peu de mots, parfois dans une formule.
De sorte que Voltaire fait partie de ces philosophes trop rares d'ailleurs, qu'on ne peut pas ne pas comprendre.
Exactement.
On ne peut pas se réfugier derrière la densité d'un langage pour dire qu'on n'a pas compris ce qu'il dit et qu'il nous met sous les yeux.
Voilà. Il n'y a rien d'abscon chez Voltaire. Il faut vraiment ne pas vouloir pour ne pas le comprendre. Et cette clarté, là, parfois, en effet, fait taxer de superficialité. Ce n'est pas un homme superficiel, même si, sans doute, il n'a pas le raisonnement approfondi de certains philosophes de profession. Mais tel n'est pas non plus exactement son objectif. Avant tout, Voltaire est un homme de combat. C'est-à-dire que sa pensée doit rester incisive. Il doit créer un choc. Il doit impressionner, faire réfléchir. Ce qu'il ne pourrait pas faire dans un traité longuement et savamment argumenté.
Parmi les articles du dictionnaire philosophique de Voltaire, il y a donc cet article sur cette question qu'on a déjà abordée, le déisme, autrement appelé le théisme. Le théisme, dit-il, est une religion répandue dans toutes les religions. Et je dois dire qu'une formule aussi scintillante, aussi limpide, aide à comprendre ce qu'il en est du théisme comme finalement de la structure fondamentale dont le folklore religieux n'est qu'un appendice.
Mais c'est exactement ça, c'est l'idée, selon Voltaire, que, c'est un vieil argument, d'ailleurs il ne l'invente pas, l'existence de Dieu relève du consensus universel. De tout temps, sous une forme ou l'autre, polythéiste ou monothéiste, les hommes ont reconnu nécessaire et évidente l'existence d'un être supérieur et organisateur. C'est donc cela qui forme, au fond, la base de toute religion. L'essentiel, tout le reste, les rites, le fait de s'habiller, comme il le dit, dans certains, par exemple dans la prière à Dieu, le fait de s'habiller en noir ou en blanc, de se couvrir la tête ou de se la découvrir, ça n'a évidemment aucune importance, ce sont des inventions humaines. Mais du moins, tout le monde peut s'accorder sur ce principe essentiel, il existe un Dieu. Et ça, c'est le fondement du déisme de Voltaire. Et l'on comprend du même coup d'ailleurs pourquoi, paradoxalement, l'Église de l'époque pouvait être peut-être plus inquiète du déisme que de l'athéisme. À l'athéisme, on peut opposer la foi, on peut opposer le dogme. Mais le déisme n'est pas un homme qui nie Dieu, il l'accepte. Ce qu'il refuse, c'est tout ce qu'on met autour, c'est-à-dire les miracles, les prophéties, le clergé, la puissance de temporelle de la papauté, etc., etc. C'est au fond une grande lessive du principe religieux, dont subsiste évidemment l'essentiel, la croyance en Dieu, mais qui, bien entendu, supprimant tout ce qu'il y a autour, rend aussi toutes les églises superflues. L'homme peut très bien prier Dieu sans rien lui demander d'ailleurs, puisqu'il nous a tout donné. C'est même d'ailleurs un des points sur lesquels Voltaire se rapproche de Rousseau, car Rousseau aussi estime que la prière de demande n'a aucun sens. Dieu nous a tout donné.
Qui aime Dieu d'un amour sincère ne doit pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Ça n'est pas du Voltaire, ça n'est pas du Rousseau, c'est du Spinoza, ça, Raymond Trousson. Or, l'article miracle du dictionnaire philosophique de Voltaire est quasiment, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais c'est quasiment, c'est presque recopié, mais vraiment, mais mot à mot, la copie conforme du chapitre 6 du traité théologico-politique de Spinoza, de l'article sur les miracles. Hein. Il dit... Un miracle, selon l'énergie du mot, est une chose admirable. En ce cas, tout est miracle. Voltaire, d'ailleurs, en une phrase, c'est la première de l'article, en vient à la conclusion qui est celle de Spinoza. L'objet, évidemment, dans les deux cas, est de dire que la plupart des hommes tiennent pour miraculeux ce qui déroge à l'ordre de la nature, alors qu'en réalité, le véritable miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre.
Mais bien sûr, aux yeux de Voltaire, comme aux yeux de Rousseau, d'ailleurs, le miracle, il est perpétuellement sous nos yeux, c'est le fait que le monde existe. Quant au reste, aux yeux de Voltaire... qui est un rationaliste. Dieu a établi des lois éternelles et immuables. Or, le miracle est une rupture de ces lois, ce qui mettrait Dieu en contradiction avec lui-même. Le miracle est donc inutile, superflu, le plus souvent mensonger, produit de la crédulité populaire et de l'ignorance. Et le miracle n'étant rien nécessaire pour croire en Dieu. Option que choisit aussi Rousseau, tout simplement, parce qu'il est aussi déiste, bien entendu.
Mais de ce point de vue, est-ce que les deux déistes que sont Voltaire et Rousseau n'empruntent pas leur certitude non seulement à Spinoza, mais également à Pascal, au Dieu caché de Pascal, au Dieu qui ne se fait voir qu'à la condition d'avoir la foi, précisément. Un Dieu qui, finalement, n'est sensible qu'au cœur de celui qui sait le recevoir et qui sait l'accueillir. Voltaire n'aimait pas Pascal, mais n'est-ce pas là un de ses malentendus ?
D'une part, nous en parlions dernièrement d'ailleurs, Voltaire aime beaucoup les provinciales, parce qu'il y retrouve quelque chose de voltairien, bien entendu, dans le ton, le talent du polémiste, etc.
Pascal, et puis quelqu'un qui se paye les jésuites n'est pas tout à fait mauvais.
Oui, et peut-être de ça aussi, bien entendu. Mais il n'aime pas Pascal, et il le montre déjà dans les lettres philosophiques en 1734, où il introduit d'ailleurs, puisqu'il s'agit de lettres anglaises, il introduit tout un morceau sur Pascal, qui au fond n'est pas à sa place, que vient faire Pascal dans des lettres anglaises. Simplement parce qu'il a envie de dire son avis sur Pascal. Il n'aime pas Pascal parce qu'il est janséniste, parce qu'il prêche, comme un ami de Voltaire, d'ailleurs Louis Racine, il prêche une religion triste, amère, sévère, un Dieu qui fait peur, qui terrifie. Et ce Dieu-là, Voltaire l'a connu dans sa propre famille. Son frère, Armand, avait été élevé chez les jansénistes et était devenu un véritable fanatique. Et un homme dont le rigorisme orthodoxe intransigeant le rendait en quelque sorte inhumain. Voltaire déplore que Pascal s'apesantisse sur la misère de la condition humaine, rabaisse tout orgueil, toute autonomie de la pensée, hein. S'il s'élève, je l'écrase, s'il s'abaisse, je l'élève, etc.
S'il s'élève, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je l'élève,
oui. C'est ça, ça ne me revenait plus. Il y a chez Pascal une sorte de pessimisme tragique qui inquiète Voltaire. Il n'aime pas du tout non plus la croyance janséniste à la prédestination, qui, bien entendu, liquide la liberté humaine, et qui fait que ce que Voltaire, lui, considère comme l'essentiel ne compte plus. C'est-à-dire, il faut la foi... et pas les œuvres.
Oui, mais en même temps, la croyance à la prédestination libère enfin la foi de tout principe de récompense. On ne croit pas parce qu'on espère toucher les dividendes de sa foi. Est-ce que finalement, une position comme celle-là n'est pas, ne serait pas sensible à celui qui considère que quand on prie, on ne demande rien ?
Si, s'il n'y avait pas cet inconvénient que, d'avance, et quelle que soit leur vertu, certains individus, inexplicablement, sont damnés d'avance.
Figure de l'injustice, effectivement.
Figure de l'injustice et de l'arbitraire divin. Qui apparaîtra d'ailleurs dans la première tragédie de Voltaire, dans Oedipe en 1718.
C'est ici qu'on voit quand même que l'humanisme voltairien est en un sens, d'une certaine manière, héritier d'une théologie qui situe l'homme au centre de la création.
Oui, encore que Voltaire tout de même la modifiera justement, ne fût-ce que dans Micromégas, par exemple.
C'est ce que j'allais vous dire.
En montrant qu'il existe un relativisme et qu'au fond, il n'y a pas de vraie prédestination parce qu'au fond, chaque chose dans l'univers est à la place qui lui revient. On est toujours grand par rapport à quelque chose de petit et petit par rapport à quelque chose de plus grand.
Mais oui, mais Raymond Trousson, pardonnez-moi, Micromégas, le personnage du Saturnien, par exemple, dans Micromégas, qui est à mi-chemin entre le géant infernal de Sirius et les tout petits hommes, c'est ça, c'est le Saturnien qui est au milieu. Mm-hmm. Le personnage du Saturnien est très exactement, tout comme l'homme pascalien, arc-bouté entre deux infinis, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les personnages de Micromégas sont des personnages pascaliens, précisément.
Oui, pascalien ou swiftien.
Oui, ou swiftien.
Donc, Voltaire joue évidemment sur ce relativisme. Quant au personnage auquel vous faites allusion, il s'agit aussi évidemment d'une allusion ironique de Voltaire à Fontenelle, qui était président de l'Académie des sciences, et qui est d'ailleurs président de l'Académie des sciences sur Saturne. Donc tout le monde rit évidemment à cette évocation, et ça relançait aussi cette idée qu'avait développée Fontenelle dans les entretiens sur la pluralité des mondes habités, puisqu'ici vous avez affaire à quelque chose qui est au fond de la science-fiction avant la lettre, puisqu'il y a quelqu'un qui vient de Saturne, quelqu'un qui vient de Sirius.
Ils arrivent sur Terre, ils dévorent deux montagnes et ils observent des atomes soudain.
Voilà, il y a des diamants qui pèsent 500 livres et puis soudain, dans la mer, là, ils aperçoivent d'abord une baleine qu'ils prennent pour un petit poisson. Tout est petit ou tout est grand, ça dépend de qui le prend en main. Et puis ils aperçoivent un bateau sur lequel il y a des insectes. Et là aussi, l'ironie voltairienne se fait sentir. Parce qu'enfin, les deux voyageurs écoutent les insectes en question et remarquent que tant qu'ils parlent mathématiques et raison, ils s'entendent parfaitement. Ils s'étonnent d'ailleurs de leur intelligence.
Mais dès qu'il est question de l'âme...
Ah oui, alors là, tous déraisonnent, chacun à sa manière. D'où aussi la fin du récit, lorsque Micromégas s'en va, il promet à ces petits insectes de leur laisser un livre qui leur montrera, dit-il, le bout des choses. Alors, dès son départ, il se jette évidemment sur le livre et trouve des pages blanches.
Et le secrétaire dit « Je m'en étais bien douté ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Et ça signifie...
J'ai lu ce texte pour la première fois, Raymond Trousson, je devais avoir 12 ans, on est au collège et on nous fait lire Micromégas parce que c'est ludique, ça fait 5 pages, que ça nous apprend déjà à douter, à avoir le vertige, à m'enseigner un peu la relativité de toute chose. Mais la fin, tout le monde était en peine de l'expliquer.
Tout simplement parce que c'est l'expression de la sagesse et de la raison. Nous ne devons pas nous préoccuper des choses qui dépassent notre entendement et notre raison. Nous y perdons notre temps et nous entrons dans le domaine de la métaphysique, qui est pour Voltaire quelque chose d'assez stupide en soi d'abord, mais surtout de profondément malfaisant. Parce que, encore une fois, la métaphysique mène à la conviction qu'on a raison, cette conviction mène au fanatisme et par conséquent à l'intolérance.
À la fin de Micromégas, on est dans un discours typiquement kantien.
Tout simplement,
il y a de l'inconnaissable.
Sceptique, parce qu'au fond, cette finale, qui sera d'ailleurs aussi finalement dans un sens celle de Zadig, le « mais » de Zadig, etc., qui est une protestation inutile, il y a des choses qui nous échappent, c'est quelque chose qui sort aussi très lointainement de la pensée libertine, des manuscrits clandestins, et même de cette réflexion de Marcille Ficin, que Voltaire connaissait peut-être, qui disait en une formule latine quae supranos nihil ad nos. Les choses qui sont au-dessus de nous, en dehors de notre portée, ne nous concernent pas. C'est-à-dire accepter la limite de notre raison. Cette raison nous montre, nous prouve même qu'il existe un Dieu. Il n'y a qu'à regarder l'univers. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà. La nature de Dieu, les attributs de Dieu, ça c'est une chose qui est absolument indiscutable.
Mais est-ce que ça n'est pas contradictoire de considérer qu'il y a un au-delà de la connaissance, qui est typiquement le discours kantien ? Il y a un au-delà de la connaissance, nous ne pouvons pas connaître la nature de Dieu, on peut se figurer en Dieu l'idéal d'une connaissance achevée vers laquelle il faut tendre, et en même temps de désigner Dieu comme un architecte, comme un horloger finalement, de façon presque maçonnique.
Oui,
est-ce que ça n'est pas contradictoire, ça,
non, parce que vous en restez une conception extrêmement rationaliste de Dieu, cette idée d'architecte, cette idée d'horloger, rejoint évidemment un système mécanique, un artefact, comme vous disiez hier, c'est-à-dire l'idée d'un fabricant de quelque chose, d'un artisan. Dieu a créé le monde comme moi je fabrique une montre. C'est le même principe.
Alors, restons sur Voltaire, sur Dieu, et également l'un de ses interprètes, peut-être le plus voltairien d'entre eux, hein, c'est Sacha Guitry, qui nous accompagne toute cette semaine, dont on entend la voix au moins une fois par émission, à votre compagnie Raymond Trousson. Voici ce que Guitry rapporte de ce que Voltaire lui-même disait de Dieu.
Il a dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il a dit, si Dieu a fait l'homme à son image, nous le lui avons bien rendu. Quand un prêtre se présenta à son chevet, Voltaire mourant lui demanda « Qui vous envoie ?»« Dieu lui-même », répondit le prêtre. Alors Voltaire lui demanda « Où sont vos lettres de créance ?»
Bien des gens demandent si le théisme, considéré à part et sans aucune autre cérémonie religieuse, est en effet une religion. La réponse est aisée. Celui qui ne reconnaît qu'un Dieu créateur, celui qui ne considère en Dieu qu'un être infiniment puissant et qui ne voit dans ses créatures que des machines admirables n'est pas plus religieux envers lui qu'un Européen qui admirerait le roi de la Chine et pour cela sujet de ce prince. Mais celui qui pense que Dieu a daigné mettre un rapport entre lui et les hommes, qu'il les a fait libres, capables du bien et du mal, et qu'il leur a donné à tous ce bon sens qui est l'instinct de l'homme et sur lequel est fondée la loi naturelle, celui-là sans doute a une religion, et une religion beaucoup meilleure que toutes les sectes qui sont hors de notre Église. Car toutes ces sectes sont fausses et la loi naturelle est vraie. Notre religion révélée n'est même et ne pouvait être que cette loi naturelle perfectionnée. Ainsi le théisme est le bon sens qui n'est pas encore instruit de la révélation et les autres religions sont le bon sens perverti par la superstition.
Vielleicht hat ihm gar auf seinen Donner keinen mich ungleich heftiger zu überziehen.
Comment expliquer que dans le dictionnaire philosophique, Voltaire vante celui qui pense que Dieu a daigné mettre un rapport entre lui et les hommes, qu'il les a fait libres, capables du bien et du mal, et qu'en même temps, ce soit la même personne qui, à la fin de Micromégas, se moque vertement du petit animalcule humain qui considère que tout a été créé pour l'homme?
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Dans cette perspective, en effet, Dieu a fait l'homme libre, c'est-à-dire responsable de son choix entre le bien et le mal. Et ça s'appuie sur une conception de la religion, qui est, comme il le dit lui-même d'ailleurs, la religion naturelle, donc universelle. Il a d'ailleurs fait un poème sur la religion naturelle. Et ça n'implique nullement une conception de quelque orthodoxie que ce soit, d'où son rejet de tout ce qu'il appelle les sectes, c'est-à-dire les différentes églises, bien entendu. Et ça permet aussi de revenir à la formule que citait Sacha Guitry, et qui est souvent citée un peu à tort et à travers, « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Ce n'est pas du tout une profession de foi de Voltaire en la croyance d'un Dieu. C'est une réflexion de caractère sociologique. Voltaire est convaincu que les gens simples, les gens du peuple, ont besoin d'une caution transcendante pour observer la vertu. Il y a la crainte du gendarme, bien entendu, mais comment on peut la tourner, tandis que personne ne peut ne pas trembler devant l'éventualité de la justice divine et éternelle. Donc, dit-il, je crois qu'il faut que mon laquais, que mon cordonnier, que mon procureur croient en Dieu, et je crois que j'en serai moins volé. Il est donc nécessaire qu'un Dieu punisseur et rémunérateur, rémunérateur et vengeur, comme dit Voltaire, existe dans la croyance populaire, parce que cela maintient la morale, et que pour les gens simples, il n'y a pas de morale sans religion.
Mais de ce point de vue, est-ce que Voltaire n'est pas en contradiction frontale avec l'ambition qui est la sienne d'affranchir l'homme de la tutelle des religions? Est-ce que, d'ailleurs, on retrouve cette ambivalence chez Spinoza, chez Schopenhauer, tous ceux qui contribuent à détruire l'idée d'un Dieu personnel, l'idée d'un Dieu tout-puissant, l'idée d'un Dieu qui aurait finalement la figure humaine d'un roi, d'un tyran, à ceci près que son pouvoir est infini, contrairement à celui des rois, sont également ceux qui défendent l'institution religieuse comme ayant une nécessité sociale?
Si, bien sûr, seulement ce que veut détruire Voltaire, ce n'est pas la croyance en Dieu, ce sont toutes les églises qui utilisent la croyance en Dieu pour servir le pouvoir, soit le pouvoir du roi.
Mais est-ce que ce faisant, il ne leur reconnaît pas le mérite de garantir la paix sociale?
Si, mais dans une certaine mesure, cette religion est en effet nécessaire à la paix sociale. Vous savez, là encore, paradoxalement, il rejoint Rousseau qui écrivait dans la lettre à D'Alembert « J'ai cru longtemps qu'on pouvait être vertueux sans religion », fait allusion à Diderot évidemment, mais je suis bien désabusé de cette chimère. Les athées ne peuvent pas être vertueux parce qu'ils n'ont pas cette crainte de Dieu. donc tout leur semble permis. C'est aussi pourquoi Voltaire ira jusqu'à dire « Je préfère qu'un peuple ait la plus superstitieuse des religions, à condition qu'elle ne soit pas criminelle ni violente, plutôt que pas de religion du tout. Cette religion est une chose nécessaire au point de vue social et au maintien de l'ordre. » Donc, dans la formule « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer », ben oui, il faudrait l'inventer justement parce que ça sert au maintien de cet ordre. Il ne s'agit pas d'une profession de foi. Cette profession de foi, pour Voltaire, elle est évidente. Dieu existe puisque le monde existe. Mais dans l'âme des simples, il faut absolument que ce Dieu rémunérateur et vengeur, ce Dieu gendarme...
Il faut un Dieu existe. Personnel.
Il faut un Dieu personnel parce qu'il faut que l'homme craigne quelque chose. Il va même plus loin. Il dit non seulement... Un peuple qui serait athée, il pense là à la supposition, l'hypothèse de Pierre Bell sur la société d'athées vertueux, qu'il récuse bien entendu, ce Dieu personnel est absolument nécessaire et il est encore plus nécessaire peut-être au prince, au souverain. Parce que, dit-il, le souverain dispose d'un tel pouvoir que s'il n'avait pas une crainte de Dieu, qui le jugerait ici-bas? Il pourrait faire tout le mal qu'il désire, exercer son despotisme sans aucune crainte, si Dieu ne l'arrêtait pas.
En sorte que chez Voltaire, comme chez Rousseau, il y a un véritable, authentique pessimisme anthropologique qui du coup les oblige à recourir à ce qu'ils repèrent par ailleurs comme étant une chimère. En somme, il y a chez les deux, chez ces hommes des Lumières, mais alors chez Voltaire comme chez Rousseau, l'idée que la connaissance n'est pas à la portée de tous ou que, le cas échéant, elle ne suffit pas à résorber la violence.
C'est parce que Voltaire, en effet... à un relatif pessimisme anthropologique. Voltaire croit à la possibilité du progrès. Seulement, il ne croit pas à un progrès continu, linéaire. Et toute sa vision de l'histoire est là, d'ailleurs. C'est que les quatre âges dont nous parlions l'autre jour ont été séparés par des périodes d'obscurantisme, de superstition, de guerre. C'est un progrès en dents de scie. Il y a des retombées, il y a des chutes. Les grandes affaires criminelles, comme l'affaire Sir Frank Alas là-bas, sont des exemples de ces chutes. Mais malgré ça, eh bien, on progresse tout de même. Mais il est aussi entendu que Voltaire n'a jamais été partisan de la diffusion de l'instruction jusque dans le peuple. Il estime que la sagesse doit, comme il dit, descendre des principales têtes. Il suffit, au maximum, c'est ce qu'il fera affirmer d'ailleurs, que les enfants de laboureurs sachent lire, écrire et compter. On ne leur demande pas davantage. Et cette position qui a souvent été critiquée, alors qu'un Diderot, au contraire, veut ouvrir l'enseignement à toutes les classes de la société, et même gratuitement d'ailleurs, ce qui est très moderne à l'époque.
Oui, Diderot est l'inventeur des universités populaires.
Voilà, c'est ça, avec ses projets pour Catherine II. Mais Voltaire, lui, se comprend dans une certaine perspective. Il est un grand propriétaire foncier dans un pays où l'agriculture exige des bras. Or, dit-il, que se passera-t-il si vos fils de paysans deviennent, entre guillemets, des intellectuels? Ils ne sont plus satisfaits de leurs conditions. Ils iront se pervertir à la ville, où ils deviendront flatteurs, courtisans ou laquais. Et, d'une certaine manière, Rousseau a un peu la même position aussi. Vous allez dénaturer des hommes dont le fond est bon par un faux savoir ou un savoir superficiel qui les conduira à ne plus être contents de leurs conditions et à aller chercher à la ville une perversion qui les perdra. Donc il y a là un argument qui est aussi de caractère économique. L'agriculture a besoin de bras. Si vous faites de tous les laboureurs des intellectuels, qui travaillera la terre?
C'est un argument platonicien, c'est amusant.
C'est exact, c'est aussi l'argument de Platon, qui est au fond une réflexion qui peut nous sembler aujourd'hui assez choquante, bien sûr, mais il faut se représenter aussi l'état d'une France qui est à l'époque à 90% agricole. Donc la production économique repose sur cette production agricole. Instruire les humbles, les fils de laboureurs, c'est très gentil, mais qu'est-ce qu'on fera de tous ces intellectuels qui deviendront éventuellement des écrivains lamentables dans la perspective de Voltaire comme Fréron ou Desfontaines, alors qu'ils auraient pu faire d'honnêtes laboureurs qui font prospérer le pays et qui nourrissent leur famille?
Un grand merci Raymond Trousson. Je rappelle, comme tous les jours, votre livre sur Voltaire, votre biographie de Voltaire, une somme, un livre qui se lit comme un roman, Voltaire, paru en 2008 aux éditions Talendier. Le dictionnaire philosophique de Voltaire, j'espère, chers auditeurs, qu'on vous en aura un peu convaincu, est une merveille, un régal à chaque page. On peut le lire dans le désordre. Il faut d'ailleurs le lire dans le désordre. Passer des annales au souverain bien, au boulevard, à la chaîne des êtres créés, au directeur, à l'eucharistie, à la fable, la félicité, la femme, le goût, le gouvernement, la grâce ou bien encore Ignace de Loyola. Demain, on continuera donc cette semaine sur Voltaire en parlant des contes de Voltaire qu'il tenait lui-même pour des fadaises philosophiques, Zadig, Candide, Micromégas, l'ingénu. Ça reste à voir. Est-ce si inutile, ces contes qui, après tout, valent à Voltaire et la postérité qui est la sienne? À la technique aujourd'hui à Paris, c'est Jean-Richard Dufour. À la réalisation, François Connac. Un grand merci à Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Florence Malfatto, Jennifer Murzo, France Culture, 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.